n'y a pas de raison qu'on puisse pas créer une alternative vertueuse qui plaira autant aux enfants. Donc c'est exactement ce qu'on a créé à Power, c'est un jeu vidéo qui doit autant lui plaire, donc c'est les aventures, les quêtes, etc. Mais où à la fin de chaque session, il va pas dire j'ai tué 12 personnes et j'ai survécu à une battle royale, il va dire j'ai appris la capitale de la Somalie, j'ai réussi une table de 7.
Bienvenue sur La Tech à l'envers, le podcast qui explore les dessous de la tech pour en développer un usage éclairé et respectueux de notre vie privée. Salut, je m'appelle Clément Donzel, expert en cybersécurité et ex-directeur des réseaux sociaux chez Microsoft.
Salut, je m'appelle Magali, je suis spécialiste en sommeil, praticienne en hypnothérapie et ex-Microsoft. Ici, nous explorons les coulisses de la tech à travers le regard aiguisé d'experts en marketing, en design, en psychologie cognitive, en neurosciences et bien d'autres.
La tech à l'envers, c'est un espace de dialogue et de découverte sans moralisation où la curiosité est reine. On vous invite à nous rejoindre dans cette aventure pour apprendre, s'interroger et peut-être même changer notre façon de vivre avec la technologie. Prêt à regarder la tech sous un autre angle ? C'est parti ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec Yann Caron de La Carrière, cofondateur de la startup Powers, qui édite le jeu vidéo éponyme et qui a la particularité d'intégrer des contenus éducatifs tout au long de l'aventure. Il nous en dit plus tout de suite. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup Yann de nous accueillir aujourd'hui dans ton studio en plein cœur de Paris.
Très content de vous accueillir.
Pourrais-tu nous dire quelques mots sur toi et ton parcours et ce qui t'a emmené dans cette aventure Powers ?
Moi j'ai un parcours assez classique, école de commerce déjà, et puis j'ai une première partie de carrière, un peu comme vous d'ailleurs avec Microsoft je pense, où j'ai grandi chez SFR, et où j'ai fait à peu près tous les métiers que tu peux faire au marketing, et rapidement je suis devenu directeur marketing de Red, qui est la marque digitale du groupe, notamment dans le contexte du lancement de Free Mobile, donc c'était hyper intéressant parce qu'on a créé la marque, puis développé la marque, et fait évoluer la marque, donc voilà... je me suis assez rapidement retrouvé à la tête d'une équipe d'une centaine de personnes. On avait Red, puis on a racheté Virgin Mobile, puis on a SFR La Carte. Donc on a fait grandir tout ça. Red, c'était 3 millions d'utilisateurs à peu près à la fin, sur un marché très compétitif qui était celui de Free avec Soj, BNU, etc. Et puis moi, je suis arrivé à 30 ans où je me suis dit, tiens, en fait, je suis quand même en train de rater tout un pan d'activité qui était celui des startups qui, quand même, m'intéressait depuis toujours. Et donc j'ai basculé à ce moment-là vers le monde des startups où j'ai rejoint notamment Shadow, qui était une entreprise de cloud gaming. Donc c'était très tech là aussi, mais cette fois-ci c'était plus l'idée de transformer n'importe quel écran chez vous en machine surpuissante pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ça grâce à une tech qui était assez dingue. En fait, les serveurs étaient à distance et la machine avait juste à streamer cette puissance grâce à une connexion internet très basique. Et donc Shadow, pareil, je suis arrivé, il y avait à peu près 20 000 utilisateurs, 20 000 abonnés, et on l'a fait croître à peu près 150 000 abonnés en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans 7 pays à peu près. Et c'est chez Shadow que j'ai rencontré Emmanuel et Arnaud, qui sont mes deux associés chez Powers, et où on a eu globalement l'idée de faire quelque chose de plus grand avec Powers. Voilà, très bref.
Combien vous êtes aujourd'hui dans les équipes ? Parce que c'est quand même une belle structure.
Et puis surtout le contexte, parce qu'il me semble que le confinement y a joué pour beaucoup.
Je peux vous raconter comment on s'est lancé, mais Powers, c'est un bébé du confinement, en effet. On était tous les trois donc, chez Shadow. Le contexte était très particulier chez Shadow, puisqu'on avait des dissensions stratégiques avec l'investisseur principal, on va dire. Et donc, on s'est mis à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus grand. Il y avait toujours cette idée, notamment dans le parcours d'Emmanuel, qui est mon associé, qui est le CEO de Powers, de voir ce qu'on peut faire de positif avec la tech. C'est quelque chose qu'il guide, lui, depuis le début de ses expériences entrepreneuriales. Et donc, il y a eu une évidence avec le confinement qu'il y avait un sujet énorme sur l'éducation, puisque autant vous avez des leaders dans à peu près tous les domaines qui ont été révolutionnés par le digital, donc le leader du mail, le leader de la visio, le leader du contenu, etc. Ça, je pense que vous avez des noms qui vous apparaissent à chaque fois dans le cerveau. Quand vous dites éducation, vous voyez qu'il n'y a rien, en fait. C'est assez incroyable, c'est que c'est complètement éclaté en... des milliers de petites entreprises qui ont toutes vachement d'ambition, mais qui ont quand même en commun d'être assez petites et assez faciles à dupliquer. Et donc on s'est dit, on va utiliser notre savoir-faire, donc ce qu'on a fait précédemment avec Shadow et notre expérience, aussi avec notre réseau, c'est-à-dire qu'on connaissait pas mal d'investisseurs, pour faire enfin un gros acteur. dans l'éducation et grâce à la technologie pour changer les choses. Et donc voilà, ça s'est créé fin 2020. Je vais très vite et puis après on pourra s'y attarder si vous voulez un petit peu, mais en gros on a créé la boîte en fin 2020, on a levé assez rapidement de l'argent grâce aux investisseurs qu'on connaissait de Shadow, on a fait deux tours successifs de 3 et 7 millions d'euros à peu près, donc on a levé une dizaine de millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est-à-dire début 2024, on est une quarantaine. On tient à rester pas trop gros. On a vécu les grosses équipes, notamment avec Shadow, et plus vous êtes gros, moins vous allez vite. Donc on essaie de rester le plus petit possible, quarantaine donc, à Paris, avec la moitié des gens qui sont en télétravail à 100%, donc qui habitent à peu près partout en France, même au Québec ou à Madrid. Et puis une vingtaine de gens qui sont au bureau tous les jours, dans des bureaux du 10e arrondissement, qui sont très sympathiques.
J'ai une petite question, parce que je sais que vous avez notamment travaillé avec des maisons d'édition quand vous avez lancé Powers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Alors nous, dès le départ, on s'est dit... Donc Powers, c'est la réunion de trois choses. Le jeu vidéo, l'éducation et la technologie. On n'y connaît rien en éducation, mais ça tombe bien, on n'y connaît rien en jeu vidéo non plus. Et donc on a eu très vite besoin de s'entourer de gens qui s'y connaissent. On s'y connaît en technologie, en gros. Et donc très vite, dès le premier tour de table, c'est-à-dire dès la première levée de fonds, on a essayé de s'entourer de partenaires qui étaient capables de nous accompagner, de nous aider. Donc sur le jeu vidéo, pour aller très vite, on a essentiellement travaillé avec des patrons de studios de jeux vidéo, donc des gros studios que je ne vais pas vous citer ici, mais qui ont fait des blockbusters et qui nous donnent des conseils sur comment on structure une équipe, comment on met en place le développement d'un jeu vidéo à succès. Et sur l'éducation, en fait, on a très vite rencontré d'abord Hachette, puis très rapidement Bayard, qui ont été hyper intéressés par le projet, donc ont décidé aussi d'investir dès les démarrages de Bowers, avec cette idée de dire, bah, en fait, en investissant, on a un pied dans la porte, et donc au quotidien, nous, on échange avec leurs équipes pour définir la stratégie éducative, et ensuite produire les contenus qui sont dans le jeu. Sachant qu'on s'appuie énormément sur les contenus de Hachette et de Bayard. Et chez Hachette, c'est beaucoup Attier, donc qui est l'éditeur de manuel scolaire, qui est le leader français du manuel scolaire, qui travaille avec nous sur comment on définit un cursus pour la grammaire, pour les mathématiques, pour la géographie, etc. Donc on bosse beaucoup avec eux, et c'est assez dingue, parce que moi j'avais la vision complètement des gros groupes et des startups qui n'arrivent pas à bosser ensemble, ce qui est quand même une réalité dans 90% des cas. Là, pour le coup, ça fonctionne et c'est du quotidien. C'est pas un truc qu'on se voit tous les ans en board et on se dit rien. Voilà. Donc ça, c'est chouette.
Et la spécificité de Powers, c'est notamment donc un jeu éducatif. Tu mentionnais notamment le contenu par rapport à l'orthographe ou en tout cas les écrits. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans le jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les parents qui nous écouteraient, qui se diraient, tiens, potentiellement, mon enfant pourrait en bénéficier. Quel type de contenu on peut retrouver et comment tout ce système éducatif fonctionne ?
Ouais. Alors déjà, je vais vous surprendre, mais ce n'est pas un jeu éducatif. Parce que jeu éducatif, pour moi, ça veut dire échec. Ça fait 30 ans qu'il y a des jeux éducatifs qui se lancent sur le marché et qui ont tous en commun de se planter. Parce qu'en fait, ça reste du brocoli au chocolat. C'est-à-dire un contenu extrêmement ennuyeux que je vais saupoudrer d'un peu de gaming et je vais faire croire aux gamins que ça va être aussi drôle que le jeu vidéo qu'il a l'habitude d'avoir, Brawl Stars, Fortnite, etc. Nous, on a fait à peu près exactement l'inverse. En fait, Power, c'est un jeu vidéo. Powers, c'est un jeu d'aventure avec mon avatar, des mondes incroyables, des quêtes, des intrigues. Et c'est d'abord pour ça que l'enfant va avoir envie de jouer, parce que c'est un jeu vidéo. Et du coup, d'une certaine manière, on va l'intégrer dans cette histoire. Et là, on va commencer à lui glisser du contenu éducatif. Donc on va plutôt faire un chocolat avec un peu de brocoli. Et il y aura de plus en plus de brocoli au fur et à mesure qu'on va l'intégrer dans l'histoire. Mais c'est hyper important parce que c'est le parti pris qu'on a depuis le début. Et c'est ce qui fait la grosse différence avec tout ce qui s'est fait depuis 30 ans dans le jeu éducatif. Voilà. Donc dans Powers, il y a d'abord un personnage, un monde ouvert, des mondes à explorer, des tyroliennes, des fleurs géantes sur lesquelles je saute, voilà. Et puis, dans mes aventures, je vais en effet retrouver une vingtaine de domaines pédagogiques qu'on a développés au fur et à mesure, des trucs très académiques, donc il y a en effet du calcul mental, de la géométrie, de l'orthographe, de l'histoire, de la géo, il y a de la musique, mais aussi on a mis des trucs beaucoup plus parascolaire. Vous allez retrouver du yoga, de l'astronomie. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'éveiller la curiosité des enfants. Donc tout ce qui va éveiller leur curiosité va être intéressant pour nous. On a mis de la mythologie grecque aussi, d'ailleurs, avec Bayard, typiquement. Voilà, ils ont un feuilleton qui s'appelle le feuilleton d'Hermès qu'on a intégré au jeu. Donc c'est vraiment notre ambition. Nous, ce qu'on veut, c'est éveiller sa curiosité. Et donc après, lui, comme c'est un monde ouvert, s'il a une dimension qui lui plaît, il va la creuser naturellement. C'est très Montessori comme approche.
Et si on vous qualifiait de jeu addictif, ça vous ferait pas peur ?
ça nous fait pas peur parce que nous, l'ambition, c'est d'être une alternative aux jeux qui existent déjà. Donc, je suis sûr que les parents qui écoutent ont l'habitude d'avoir cette discussion avec leurs enfants. Brawl Stars, Fortnite, Zelda pour ceux qui ont une Switch, etc. Nous, on veut être une alternative et donc on veut que l'enfant nous choisisse par rapport à Brawl Stars ou à Fortnite auxquels ils sont déjà addicts. Donc, on essaie juste d'utiliser ce temps-là pour en faire quelque chose de positif et avec de l'impact. Donc oui, on assume de faire un vrai jeu et dans les composantes du vrai jeu, il y a l'addiction. Après, on met en place tous les outils qui permettent aux parents de s'en sortir. On pourra y revenir, mais il y a une application parent qui permet de contrôler le temps d'écran, qui permet de mettre pause, qui permet d'avoir de l'impact sur ce que l'enfant va apprendre dans le jeu. Voilà, on essaie de donner des outils. Mais ouais, on est une alternative et donc on veut que l'enfant nous choisisse par rapport aux autres.
Est-ce que tu as des statistiques que tu pourrais nous partager en termes de temps d'écran au niveau des enfants? Ça ressemble à quoi une partie et comment vous assurez voilà, qu'une partie ne va pas durer finalement toute la nuit? Parce que je pense que c'est votre objectif et c'est probablement aussi celui des parents, c'est d'une certaine manière contrôler. Donc quels sont les mécanismes? Tu parlais d'une application pour les parents. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans justement les différents moyens de protection?
Ouais, nous on a intégré donc, dans l'équipe de design du jeu, qui est un peu l'équipe produit, si je vais faire des parallèles avec une équipe traditionnelle, à la fois des game designers qui ont l'habitude de construire des jeux vidéo et des ingénieurs pédagogiques. Et une des premières choses qu'on a définies avec eux, c'est qu'on voulait des sessions courtes, parce que en fait, l'apprentissage, un enfant, en fait, en vrai, on sait que sa capacité d'apprentissage est assez limitée et qu'au bout d'un moment, il sature et il assimile plus vraiment. Donc on a essayé de concevoir des sessions qui durent entre 15 et 40 minutes, on va dire. C'est des séquences dans le jeu qui vous amènent à jouer 15 à 40 minutes. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur mobile, donc on est présent sur PC, Mac, iOS, Android, donc smartphone et tablette. Sur mobile, on a des sessions de jeu qui sont autour de 20 minutes aujourd'hui. Et sur PC, on est un peu plus long, c'est 40 minutes, mais c'est pas les mêmes usages. C'est-à-dire qu'en fait, sur mobile, on va faire ça peut-être après les cours, rapidos, sur un trajet ou des choses comme ça. Le PC, c'est plus institutionnel, c'est le samedi à 17h. On prend l'habitude en famille de jouer à Powers, surtout quand il y a des fratries, donc on a énormément de cas d'usage comme ça. Et donc, chaque enfant a le droit à ses 45 minutes de Powers le samedi s'il a été sage pendant la semaine. Ça, c'est un cas d'usage qu'on a énormément. C'est collaboratif, donc le grand frère a tendance à aider la petite sœur ou inversement, la grande sœur avec le petit frère. C'est assez marrant, on a beaucoup de cas. Mais voilà, à peu près 20 minutes, 45 minutes. Et l'application parent, après, elle restitue... l'application parent, elle a deux dimensions, essentiellement. Une première autour du pilotage du temps d'écran. Donc, de définir des plages horaires acceptées, pas acceptées, des durées de session autorisées, pas autorisées. Et un bouton pause, dont je peux vous parler rapidement, parce qu'il est vraiment rigolo. On voulait faire un bouton pause, c'est-à-dire, on passe à table, le gamin vient pas, on a l'habitude, je pense, de ça. Et ce qui se passe normalement, notamment sur Switch, quand vous faites pause, c'est que le jeu s'arrête d'un coup. Je pense que ça génère beaucoup de frustration et j'imagine de pleurs et de tout ce qu'on peut imaginer à la maison. La meilleure idée, elle est venue des enfants, pour le coup, parce qu'on associe beaucoup les enfants au processus créatif du jeu. Et du coup, nous, on imaginait toutes les solutions d'adultes un peu pénibles qui font que ça crée des frustrations. Et il y a un jour, un enfant qui nous a dit « Mais en fait, pourquoi on ne fait pas, quand il y a le bouton pause, la nuit tombe sur le village, les personnages rentrent dans les maisons ?» Il n'y a juste plus rien à faire. Donc, en fait, à un moment, je vais peut-être encore traîner 2-3 minutes dans le jeu, mais il y aura juste factuellement plus de quêtes, plus d'aventures. Et donc, c'est ça qu'on est en train d'implémenter, parce que c'est juste, on a trouvé la meilleure idée qu'on avait nous-mêmes pas eue pour le pause. Donc, dans cette application parent, des sujets de temps d'écran et des sujets de suivi de performance. C'est pas du tout, on n'est pas là pour en faire des chevaux de course, hein, c'est pas l'idée. Mais commencer à restituer ce qu'il a appris en maths, ce qu'il a appris en géo, ce qu'il a appris en histoire. Et. Parce que c'est quand même assez demandé par les parents. On n'est pas du tout dans cette logique de compète, mais quand même, comment il se positionne par rapport aux autres enfants de son âge? Est-ce qu'il a des points forts? Est-ce qu'il a des points d'amélioration, selon nous, et par rapport à ce qu'on constate dans le jeu? Donc, c'est ça qu'on retrouve dans l'application, en gros.
Et tu parlais de performance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises un outil qui va permettre à l'enfant, justement, d'évoluer dans ce monde-là, mais avec des difficultés qui sont éventuellement croissantes et qui permettent d'adapter, justement, pour éviter la frustration, mais pour s'assurer qu'il y a un petit challenge? Comment ça fonctionne, ça?
Très bonne question, j'aurais dû en parler dès le départ. Quand j'ai dit qu'il y avait la tech, donc le Powers, c'est jeux vidéo, éducation et tech. Tech, c'est qu'en fait, il y a un seul Powers qui va couvrir un enfant de 6 ans qui sait à peine lire. Et on a 20% de nos joueurs qui sont des adultes, donc potentiellement un médaille field de mathématiques de 45 ans. Comment on fait ça? Alors qu'à l'époque, si pour ceux qui ont joué à Dibou, vous devez vous rappeler, il y avait un CD par classe et par matière. C'est qu'en fait, on a développé, dès le premier jour de Powers, une grosse intelligence artificielle pour détecter les signaux dans le jeu qui permet d'adapter le niveau en temps réel, non pas au niveau de chaque enfant, mais au potentiel de chaque enfant. Donc je pense que ceux qui ont des enfants ont bien en tête que leur enfant peut avoir potentiellement un niveau, une classe au-dessus dans tel domaine et une classe en dessous dans tel autre domaine, et chacun fait sa propre évaluation là-dessus. L'intérêt de Power, c'est qu'en fait, on va vraiment stimuler l'enfant pour l'amener toujours le plus loin possible selon son potentiel. Nous, ce qu'on vise, c'est assez schématique, mais c'est 80% de bonnes réponses. Donc, on monitore une zone dans laquelle il est toujours à 80% de bonnes réponses pour jamais être à 100%, sinon il s'ennuie et il arrête, ce qui peut se passer en classe, hein, par ailleurs, quand vous êtes dans une classe de 30 élèves, voilà. Ni à 50%, où là, il a le sentiment d'échec, et donc pareil, il décroche parce qu'il n'y arrive pas. Donc, nous, on monitore cette zone-là, et c'est des données que je pourrais presque montrer, mais on a vraiment ce monitoring, qu'on est à 80%, qu'on soit au tout début quand c'est très facile ou à la toute fin quand c'est très difficile. Mais on est vraiment là-dessus.
J'aimerais bien rebondir moi, sur ce que tu as dit tout à l'heure à propos de, du fait que vous intégriez vraiment les enfants dans le développement du jeu. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Oui. Notamment pendant toute cette phase donc, qu'on pourrait qualifier d'alpha, c'est-à-dire qu'on en sort un petit peu, même si on continue à parler avec des enfants et qu'il y a des enfants au bureau, je pense tous les mercredis près, n'hésitez pas à venir toquer et sonner, mais c'est, en vrai c'est incroyable pour eux parce qu'on leur montre comment on fait un jeu vidéo, donc c'est découverte des métiers par, par quelque chose de positif. Nous, dès le départ, on s'est dit, ça n'a jamais été fait, Powers, en vrai, ce qui fait souvent peur d'ailleurs aux gens, si ça n'a jamais été fait, c'est que c'est, ça va forcément échouer. C'est pas exactement l'habitude qu'on a pris avec Shadow, parce que pareil, il y a eu énormément de tentatives et puis ça a marché. Et c'est pas l'habitude d'Emmanuel dans l'absolu. C'est, par contre, on n'y arrivera pas si on se met à trois dans une chambre, dans un bureau, et vous allez voir ce que vous allez voir, on est des génies incroyables. Donc, d'où l'idée de s'associer dès le départ à des experts de l'éducation, d'où l'idée de s'associer dès le départ à des experts du jeu vidéo, et d'où l'idée de s'associer dès le départ à des enfants, parce que le plus dur finalement, c'est de faire un jeu qui plaît. Hein, si c'était si facile, tout le monde serait multimillionnaire en lançant des jeux vidéo qui cartonnent tous les 4 matins. Et donc de les associer pour avoir très très vite et en cercle continu, en boucle continue des retours des enfants, qu'ils aient 6, qu'ils aient 8, qu'ils aient 10 ou qu'ils aient 12 ans, sur ce qu'on était en train de construire. Donc on a lancé la boîte novembre 2020 et en février 2021, il y avait un prototype public sur lequel on pouvait déjà commencer à collecter du retour d'enfants. Comment on l'a fait ? On a créé... des petites réunions, donc on avait des boards d'investisseurs, des boards de jeux vidéo et des boards d'enfants. On a même joué le jeu jusqu'à un moment où on avait vraiment mis des bureaux avec des petits cahiers, des petits stylos, des petites bouteilles d'eau qui tiennent dans la main d'un enfant. Et on récupère des feedbacks là-dessus, de façon qualitative. Donc là, c'est vraiment des entretiens d'une heure, une heure et demie, avec 6-7 enfants de formats très différents d'âge et qui viennent d'un peu partout en France, ça c'était important pour nous. Et on a aussi des écoles. Ça, c'est pas nous qui avons cette stratégie du tout, mais c'est des professeurs, des directeurs d'école qui ont commencé à se dire « Attends, mais cet outil est génial, je vais l'utiliser à l'étude, après l'école, etc. » Et donc, on a pas mal d'écoles impliquées qui nous font beaucoup de feedback via les profs. Et ça, c'est super. Et puis après, on a un questionnaire à la fin de chaque session sur ordinateur et au début d'une session sur trois sur PC, sur mobile, où les enfants nous jugent, d'abord avec des smileys très contents, moyen contents, pas contents, et ensuite, avec des champs ouverts que je vous inviterai à voir un jour, on a reçu peut-être 30 ou 40 000, où ils donnent leurs idées. Donc voilà. Et les idées d'enfants, en fait, franchement, ça n'a pas de prix. Et donc, ils nous donnent des idées qui sont toutes plus créatives et marrantes les unes que les autres, mais dont on s'inspire beaucoup et qu'on récupère tous les matins. C'est un peu la bulle d'oxygène, quoi. Quelques injures aussi, mais on a tendance à leur apprendre que ce n'est pas bien.
Tu parlais d'écoles qui, notamment, voilà, utilisaient Powers. Est-ce que tu, en préparation au podcast, tu nous avais parlé également de Drancy, il me semble ?
C'est vrai, c'est l'école numéro un chez nous. C'est un directeur d'école un jour, comme quoi, on avait fait une émission, je pense, sur BFM Business. Donc tu te dis, bon, qui écoute BFM Business ? C'est pour un. En l'occurrence, ce monsieur qui s'appelle Romuald Ropart, que je salue si jamais il écoute ce podcast, que je lui enverrai probablement, qui faisait son footing et qui est directeur d'Hydro 1, qui est une école élémentaire publique à Drancy, en REP, et qui cherche des solutions pour son école. C'est une population REP assez, assez compliquée. Il en parle très bien et franchement, à l'occasion, vous devriez le rencontrer. C'est un mec complètement incroyable parce que ça vous rapproche des vraies réalités. Et donc, il entend ça, il nous envoie un petit message en disant « Moi, j'ai très envie, on est dans les galères de l'éducation nationale, donc comment on fait pour s'en affranchir ?» Et en fait, avec sa volonté et avec ce qu'on avait envie aussi de faire, on a très vite réussi à le déployer. En fait, tous les jours après l'école, donc sur le temps d'études, 16h30, 18h, tous les jours de l'année, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, avec des CPCE1 le lundi, des CE2 le mardi, des CM1 le jeudi et des CM2 le vendredi. Et donc des enfants qui participent à la construction du jeu. Et ça a tellement plu que la mairie de Drancy, après, nous a dit, bon, on voudra faire une deuxième, puis une troisième école, puis une quatrième. Et puis, ils nous ont proposé de faire une vingtaine d'écoles. Là, on a dit, là, ça va être beaucoup pour nous. On reste que 40 à Paris, etc. Mais voilà. Et puis, ça a fait tache d'huile, puisque du coup, ça marche comme ça beaucoup dans l'éducation. Donc, on a commencé à faire d'autres villes. On est à Montreuil. On est aussi dans le sud de la France. Encore une fois, de façon complètement organique, nous, notre stratégie, elle est uniquement B2C, pour dire des gros mots. Donc, on s'adresse directement aux familles, aux parents et aux enfants. Mais c'est hyper précieux pour nous parce que c'est des feedbacks de profs qui nous disent concrètement voilà ce que je constate les enfants et puis c'est des feedbacks d'enfants puisque ce que je vous disais tout à l'heure on a directement les feedbacks des enfants notamment quand ils viennent ici parce qu'on a quasiment tous reçus au bureau après pour leur montrer ce que c'était que le métier d'un développeur, d'un artiste, d'un marketeur, tout ça. Donc Drancy, c'est une expérience incroyable.
Super initiative.
Ouais.
Moi, j'avais une question par rapport justement à revenir au sujet de l'addiction des écrans. C'est quand même quelque chose qui fait débat. Hein. Les écrans, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'on en fait, etc. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce qu'en fait, c'est quoi ton point de vue là-dessus?
Moi, je pense qu'on était mieux sans écran. Clairement. En tout cas, j'ai pas de problème à dire que si on n'avait pas aujourd'hui tous ces écrans, on serait beaucoup mieux. Et moi, le premier d'ailleurs, qui ai mon téléphone fixé à la main, et voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, y a deux approches. L'approche de certains qui nous expliquent qu'on pourrait revenir en arrière complètement et probablement arrêter les écrans, et voilà, ce qui est probablement complètement illusoire, sauf peut-être chez certaines catégories de personnes. Tu vois, le truc symptomatique pour nous, c'est... l'endroit où il y a le moins d'écran, c'est la Silicon Valley, où il y a des multimilliardaires qui ont les moyens de mettre leurs enfants le lundi au poney sur glace, le mardi au scout machin, le mercredi machin. C'est génial pour eux, mais malheureusement, ça ne concernera jamais le 99,9% du reste de la population. Et donc, il y a la deuxième solution qui est de se dire, les écrans sont là. Alors, il y aura les États qui vont probablement essayer de réguler ou d'aider un petit peu, pourquoi pas. Hein. De toute façon, on sait toujours que c'est des cycles avec on va très loin, puis on revient à quelque chose. Et puis, les entrepreneurs et nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut... Alors que les écrans sont là, créer des alternatives vertueuses, il n'y a pas de raison que l'enfant, il a 45 minutes devant lui, il va jouer à un jeu où les valeurs qu'on va lui apprendre, c'est d'acheter des armes, tuer des méchants, survivre à une battle royale, etc. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas créer une alternative vertueuse qui plaira autant aux enfants. Donc c'est exactement ce qu'on a créé à Power, c'est un jeu vidéo qui doit autant lui plaire, donc c'est les aventures, les quêtes, etc. Mais où à la fin de chaque session, il ne va pas dire j'ai tué 12 personnes et j'ai survécu à une battle royale. Il va dire j'ai appris la capitale de la Somalie, j'ai réussi une table de 7. Et vraiment, on le voit, hein, je dis pas ça parce que ça paraît un peu fantasmagorique quand je le dis comme ça. C'est quelque chose qu'on constate. On a 250 000 enfants qui jouent à Powers. On entend ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des parents qui hallucinent parce qu'au dîner le soir, le gamin leur apprend des choses sur l'histoire, sur la géo ou sur la mythologie. Et donc, c'est ça qu'on s'est dit. Donc, moi, je suis d'accord sur les écrans. Mais par contre, je ne suis pas d'accord sur la solution qui consisterait à dire on arrête tous les écrans, parce que ça, je pense que c'est illusoire et qu'en fait, on va juste se planter en faisant ça, en laissant littéralement les enfants aux mains des GAFA et des machins, parce qu'eux, ils s'arrêtent pendant ce temps. Arrêtez.
Tu mentionnais le rôle possible et nécessaire probablement de la régulation, notamment via le régulateur, via les gouvernements. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en discussion avec... le gouvernement français, notamment il y a une commission sur les écrans qui se réunit. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous partager quelques éléments là-dessus?
On n'est pas en relation directe avec la commission. C'est très bien, ouais. Moi, j'ai trouvé le début du débat de façon posée assez caricaturale. Mais ça doit être le lot de la politique, j'imagine, de poser les choses simplement pour que les gens puissent se positionner. On a des relations régulières avec des membres du gouvernement, ce qui est toujours compliqué parce qu'on a discuté de nombreuses fois avec le ministère de l'Éducation nationale. Et le temps que vous créez des liens, ça a déjà changé. Donc c'est pour ça qu'on a choisi notamment cette stratégie d'être B2C et s'adresser directement à l'utilisateur final. On va tout faire pour essayer de s'intégrer à la réflexion sur la commission écran parce qu'on pense qu'on a quelque chose à apporter, qu'on est français, qu'on est soutenu notamment par plein d'institutions françaises comme la BPI depuis le premier jour. On verra les conclusions. Après, moi, les échos que j'ai eus plus récemment étaient plus mesurés que la façon dont le débat était posé dès le départ. Donc, assez confiant sur le fait qu'on arrive à quelque chose d'assez intelligent.
Parce que c'est vrai qu'on voit, enfin je rebondis juste, mais c'est vrai qu'on voit dans quelques pays, il y a la Suède qui a récemment annoncé un retour en arrière assez magistral, que c'est intéressant de voir ces évolutions. En Chine, ils ont annoncé aussi ce qu'ils ont annoncé. Voilà. Ouais. Il y a quand même des mouvements en ce moment. En tout cas, les États prennent le sujet clairement en main. Et voilà.
Ouais. Sur la Suède, c'est hyper intéressant la façon dont ça a été traité en France. Parce que je pense que les gens n'avaient pas conscience qu'en Suède, en fait, ils avaient décidé de remplacer les profs par les écrans. Et ça, c'est jamais quelque chose que ni nous, on pourrait assumer, ni personne, en fait, parce que c'est certainement pas le sujet. Donc oui, ils sont revenus sur cette idée de dire, en fait, on va remplacer les profs par des écrans dans les classes. Nous, ce qu'on dit, c'est par contre, les écrans et la technologie peuvent aider les profs. Les profs, ils restent clés dans le dispositif pédagogique. Je veux dire, on en est absolument convaincus. Et nous, on travaille avec des profs pour en faire quelque chose. Mais par contre, on est convaincus aussi que les outils, comme l'IA, par exemple, dans une classe de 30, ils permettent à un prof d'avoir une idée beaucoup plus précise de où se situe chaque élève dans chaque domaine. C'est-à-dire qu'on peut restituer, on a parlé d'une application parent tout à l'heure, on peut avoir la même application pour les profs, on l'a pas encore développée, mais c'est pas très compliqué à faire parce que c'est des données qu'on va lui restituer. Mais grâce à l'IA, on va pouvoir lui permettre d'avoir cette vision-là beaucoup plus précise, et on va lui permettre aussi de gagner du temps, parce que du coup, pendant une demi-heure, il va pouvoir potentiellement avoir ses élèves qui sont tous en train de jouer, et après, progresser à leur rythme. Là où, quand il est seul face à 30 élèves sur un tableau noir, forcément, il va devoir laisser de côté, soit ceux qui sont très 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 doués, soit ceux qui sont en grande difficulté. Et voilà. Donc la Suède, c'était important, parce que c'était un retour arrière par rapport à... ils étaient passés de l'autre côté du cheval, quoi.
Ils étaient un petit peu loin, oui.
Un petit peu loin, mais c'est aussi dans leur ADN, ils sont toujours très en avance sur la technologie. Et puis la Chine, après, moi, c'est pas un régime qui m'inspire, mais voilà, régulé à ce niveau-là. J'ai vu hier qu'il y avait une proposition en France de limiter à 3 gigas par utilisateur et par semaine. Je suis pas sûr qu'on en arrive à ces extrêmes-là, mais par contre, je pense qu'on a tous envie de s'éduquer sur ces sujets, d'être un peu meilleur dans la façon dont on l'appréhende. C'est quoi les vraies durées de session qu'on doit autoriser? C'est quoi les plages horaires autorisées? C'est quoi les contenus que je mets là dans la main de mes enfants? Ça, c'est des sujets qu'on doit avoir collectivement, et c'est pour ça que ça m'intéressait de participer à ce podcast. Parce que je pense qu'on aspire tous à s'éduquer. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics pour moi.
Ouais, pour que la tech reste vertueuse, quoi.
J'en profite. Est-ce que tu aurais des conseils à partager, des bonnes pratiques, à des parents qui auraient potentiellement des ados ou même des plus jeunes, qui auraient une relation avec les écrans qui pourrait être intense, voire peut-être trop intensive? Est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour aider justement à utiliser de manière raisonnée ces jeux vidéo?
Oui, alors je ne serais pas forcément le meilleur, parce que je pense qu'il y a des gens qui bossent de façon incroyablement précise sur ces sujets. Moi, je renvoie tout le temps aux travaux de Serge Tisseron là-dessus, parce que nous, on s'est beaucoup référé à ses travaux pour ne pas réinventer la roue. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est les bornes 3, 6, 9, 12, et qui définit des recommandations d'usage pour les enfants de moins de 3 ans, de moins de 6 ans, de moins de 9 ans, de moins de 12 ans. Et ces recommandations, elles impliquent aussi bien comment on doit appréhender les écrans seuls ou autonomes ou avec les parents, les durées de session, les plages horaires, etc. Donc vraiment, reportez-vous à ça. Il a fait en plus des choses qui sont super faciles à lire et super évidentes. Nous, on dit juste qu'on a conçu du coup des sessions qui collent avec ses travaux. On a eu Serge Tisseron plusieurs fois au téléphone. On a échangé souvent avec lui là-dessus. Mais voilà, je vous ramènerai à ça. Après, en vrai, je vais dire des trucs tellement évidents et nuls que ce ne sera pas forcément utile pour ce podcast. Mais nous, on décommande de jouer aux jeux vidéo juste avant de se coucher. Que des trucs évidents, parce qu'en fait, on l'a entendu dans les retours de nos utilisateurs. Ouais, c'est pas une bonne idée de faire des écrans globalement de se coucher. Et je crois que ça marche aussi pour les adultes, d'ailleurs. Ouais. Sana, tu pourrais m'en dire plus. Ouais.
T'as une psychologue qui s'appelle Sabine Duflo qui s'est inspirée de recommandations de l'Académie américaine et qui a mis en place une méthode qu'on appelle la méthode des 4 pas. Et c'est ce que tu dis. En gros, c'est pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas. Question de politesse. Pas d'écran avant de dormir. Hein, vraiment instaurer un couvre-feu numérique. Et pas d'écran dans la chambre à coucher. Voilà, ouais. C'est un peu...
Mais ça marche pour adultes et enfants.
Ouais, vrai,
bien sûr.
Parce que je pense que moi, je pourrais dire que je breach ces règles régulièrement, ce qui est mal.
Désolé.
Alors, j'ai une question un peu plus business. Powers, enfin, le jeu vidéo est gratuit.
Ouais.
Bon, t'as une super équipe de passionnés avec qui tu travailles. Ça demande
des capitaux.
Exactement. Et comment tu fais aujourd'hui pour faire grandir la société, financer finalement via un jeu qui est gratuit? Est-ce que tu utilises les données des utilisateurs? Tu ne fais pas de publicité?
Alors, très bonne question. On s'est beaucoup posé sur l'idée du modèle économique. Évidemment, il y a des bonnes nouvelles là-dessus. Première chose, on s'est interdit de faire de la publicité dans le jeu. Et Dieu sait que ça a de la valeur. Hein. Franchement, les régies publicitaires qui s'adressent aux enfants se font extrêmement plaisir. Nous, on se l'est totalement interdit, c'est dans notre charte de valeurs. C'est-à-dire que vous ne retrouverez pas dans Powers. Powers, c'est une safe place dans lequel l'enfant n'aura ni publicité, ni vol de données, je vais y revenir, ni multijoueur avec des inconnus comme Roblox, où vous allez vous retrouver avec Jean-Michel, 52 ans, et tout son background qu'on peut imaginer. Nous, c'est une safe place, vous pouvez le laisser en toute tranquillité, vraiment. Donc, pas de publicité. On n'utilise pas les données des enfants. On les utilise uniquement anonymement pour l'intelligence artificielle, puisqu'on a besoin de ce qu'il fait dans le jeu pour adapter le niveau des exercices à ce qu'il fait. Mais à aucun moment on les utilise pour, à des fins publicitaires ou pour les revendre à des tiers. On a décidé de donner notre jeu en accès gratuit. Ça, c'est vraiment dans nos valeurs. C'est qu'en fait, un peu à l'image de ce que je vous disais sur la Silicon Valley, c'est toujours les mêmes à la fin qui ont les moyens de se payer l'éducation qualitative, les écoles privées, les activités parascolaires, etc. Et puis toujours les mêmes qui n'ont pas les moyens de se payer le truc canon. Et donc, ce qu'on s'est interdit dès le départ, c'est de se dire... Alors, une partie du jeu de Powers est gratuit, et puis le coréen et la langue des signes, c'est payant, et donc en fait, il n'y a que ceux qui ont les moyens qui vont pouvoir continuer à développer leur connaissances. Et donc, ça nous tenait à cœur d'avoir un jeu gratuit. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour gagner de l'argent, me direz-vous. La bonne nouvelle, c'est que dans le jeu vidéo, sur les 10 jeux qui gagnent le plus d'argent, il y en a 8 qui sont dans un modèle qu'on appelle Free-to-Play In-App Purchase. C'est le modèle, pour le coup, de Fortnite, de Roblox, de Brawl Stars, où en fait vous allez pouvoir acheter dans le jeu des cosmétiques. Donc l'enfant, il va avoir son personnage, sa chimère, tout le jeu est basé sur un principe de petit dragon qui t'accompagne dans ton aventure, sa maison, et donc il pourra acheter dans le jeu des cosmétiques pour agrémenter son personnage, donc des déguisements, des tenues de chevalier, de princesse, je fais des trucs hyper caricaturaux là, mais vous imaginez le truc, des accessoires pour sa chimère, des accessoires pour sa maison. Le tout très bien mis en scène, évidemment, parce qu'il y a des séries limitées, des trucs assez incroyables, etc. Et le tout qu'on peut acheter avec une monnaie virtuelle. Là où nous, on trouve ça vertueux, bon, déjà parce que c'est complètement facultatif, ça ne permet pas d'aller plus vite dans le jeu, ça ne permet pas d'apprendre plus, c'est facultatif.
Et tu n'es pas bloqué.
Il n'y a pas de paywall ou voilà. Là où on trouve que c'est vertueux, nous, c'est que si je fais lien avec l'application parent, bah, on va pour commencer à faire des choses vertueuses, genre... Le parent sur son application reçoit une notification qui dit « Ah bah votre fils a récité pour la troisième fois de suite la table de 7 sans erreur, félicitez-le. Offrez-lui un petit pack de gemmes qui lui permettra après de se faire plaisir, donc apprentissage de l'argent de poche. »
Les gemmes qui sont la monnaie virtuelle.
Les gemmes c'est la monnaie virtuelle qui est présente dans Powers. Et donc c'est ça qu'on développe en fait, c'est cette logique d'in-app purchase qui nous semble être le modèle économique à la fois le plus juste puisque pas de pub, pas de données, pas de contenu payant. Et à la fois le plus vertueux, parce que du coup, il crée des relations, des échanges entre les enfants et les parents, sur la partie cosmétique.
Bien.
Ça vous plaît ?
Moi, ça me plaît.
En tout cas, en tant que parent, je trouve ça assez rassurant, effectivement, de me dire que mon enfant évolue dans un environnement qui est quand même sécurisé, où tu n'as personne, effectivement, qui vient derrière, tu n'as pas de publicité avec des contenus qui ne seraient pas forcément appropriés.
Ouais.
Et avec une logique, effectivement, d'évolution via une monnaie virtuelle, mais qui n'est pas bloquante pour l'évolution. Donc, à chacun, finalement, de trouver un peu son chemin pour s'éclater dans le jeu vidéo.
Exactement. Et après, un truc qu'on constate, par ailleurs, c'est que comme on sait qu'on porte un projet assez vertueux, on va dire qui porte des valeurs assez sympas, on a beaucoup de gens qui achètent des gemmes parce qu'en fait, ils veulent soutenir le développement du jeu. Parce que tout le monde est conscient que développer un jeu vidéo, c'est un investissement... Et donc, on a pas mal de gens qui, du coup, utilisent aussi ce système-là comme un système, pas de don, parce qu'on n'est pas là pour susciter de la pitié, hein, mais plus de financement, de contribution au financement du jeu. Donc, c'est assez chouette.
Voilà. Super. J'ai une question qui rebondit un peu sur une question d'avant par rapport à aux différents types d'écrans, en fait, parce que tu as dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant par rapport au type d'écran que les enfants utilisaient. Donc, tu disais un peu de mobile et surtout de l'ordinateur. Enfin, tu disais qu'ils passaient plus de temps sur un PC.
La durée de session.
La durée de session était plus longue sur ordinateur fixe que sur mobile.
Ouais.
Et je trouve ça intéressant comme données parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler des écrans au global sans vraiment différencier quel type d'écran, comment on utilise cet écran, est-ce que c'est accompagné, est-ce que c'est tout seul, est-ce que c'est dans ma chambre le soir, la nuit, et surtout quel contenu on est en train de consommer, quoi. Est-ce qu'effectivement c'est des services qui veulent juste faire de nos enfants des machines à scroller ou est-ce que c'est des services où ils vont apprendre quelque chose et des programmes éducatifs qui vont les faire grandir. Donc c'était juste ma réflexion de me dire, c'est vrai que c'est super que vous captiez ça aussi
Mais c'est juste, je fais un aparté là-dessus, parce que c'était Pascal Ruffnack, qui est le président de Bayard, qui est quelqu'un absolument génialissime, avec qui on discute très régulièrement, et qui nous a dit exactement ça. C'est, il nous a dit, autant les parents passent des heures à choisir les bouquins qu'ils vont mettre dans les mains de leurs enfants, et à, ça va faire partie un peu de la construction, de l'éducation, etc. Autant quand on arrive aux écrans, ils font un espèce de grand gloubi-boulga, genre les écrans. Et donc dans les écrans, vous allez avoir YouTube, TikTok, mais aussi Powers, etc. Et passe beaucoup moins de temps à choisir les contenus. Voilà, l'écran, c'est une tétine numérique, je te le file, je te mets YouTube pendant 45 minutes, et après, je culpabilise de l'avoir fait. Et donc en fait, c'est exactement ce qu'il disait. Il disait, mais en fait, si les gens passaient le même temps à choisir les contenus qu'ils mettaient sur les écrans, qu'ils passent à choisir les livres qu'ils mettent dans les mains des enfants, bah, on ne parlerait plus des écrans, comme étant le diable, mais on aurait une approche beaucoup plus raisonnée de ce qu'on fait. Et je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'était un éditeur qui dit ça. Une maison qui a 200 ans et qui était assez lucide sur ce constat aussi.
Et avec également la notion d'accompagnement de ces technos, quoi qu'il arrive.
Ah, ouais, ouais,
effectivement,
ouais.
Comme on va lire au début les histoires à un enfant et qui va découvrir petit à petit la lecture, un écran, c'est pareil. On ne met pas un écran tout seul dans les mains d'un enfant, on l'accompagne dans l'usage, quoi.
Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, la position, pas d'écran avant 13 ans, par exemple, je dis ça, je juge personne. Hein. Chacun fait bien comme il peut, je pense, dans ce sujet-là. Mais en fait, la vérité, c'est que si l'enfant, son premier contact avec l'écran Internet à 13 ans, il n'a jamais été préparé, bah, la vérité, c'est qu'il va installer d'un coup Snapchat, TikTok, toutes ces joyeuses applications, Roblox, sans avoir aucune appréhension de ce qu'il va y trouver. Alors que si vous passez les années précédentes à petit l'éveiller avec des choses que vous assumez, mais qui ne sont pas complètement délirantes, bah, moi, j'ai l'impression que ça les prépare. Et c'est, en tout cas, c'est un objectif qu'on s'est fixé avec Powers. C'est aussi de préparer les enfants à ce monde-là, qui commencent à avoir des challenges, puis des premières interactions avec les autres. On va mettre du multijoueur, hein, mais on va mettre un, ce qu'on appelle un tiny multiplayer. C'est qu'en fait, ce sera des villages de 7 personnes, et les 7 personnes seront choisies par les parents, en tout cas validées par les parents, et ça sera probablement des cousins, des frères et sœurs, voire les meilleurs amis de l'école. Mais il faut commencer à avoir ces premières interactions, parce que sinon, la réalité, c'est qu'à 13 ans, bah, TikTok, bon courage hein, pour décrypter les codes.
D'ailleurs, tu parlais de Serge Tisseron, et lui, effectivement, il dit qu'à partir de 6 ans, il faut expliquer aux enfants les règles du jeu social. Quoi. On est là-dedans, ouais. En fait. Il faut lui expliquer parce qu'en fait, il en aura besoin pour la suite.
Ouais, exactement. Quelqu'un d'autre, nous, on a dans notre board éducatif, donc on a dit Hachette et Bayard, on a aussi Charlotte Poussin, qui est la personnalité Montessori en Europe, qui est assez géniale parce que très, très à fond sur le projet. Son fils Maxime, que j'embrasse, joue énormément à Powers, quoi, joue énormément. Dans les limites qu'on lui a fixées, évidemment. Et puis on a Gérald Brunner, qui est un sociologue dont vous avez peut-être entendu parler aussi, et qui lui aussi nous suit beaucoup parce qu'il est hyper intéressé sur comment les enfants se construisent leur vérité. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant qui n'a jamais été soumis à des sujets de construction de vérité, on va dire, va se retrouver pareil à 13 ans avec ce qu'il appelle lui l'apocalypse cognitive. Donc d'un coup, il va se retrouver avec les flux TikTok, les flux des réseaux sociaux, tout ce qu'on lui dit, et avoir du mal là-dedans à trier le vrai du faux et comment je me construis ma vérité dans quelque chose qui est probablement assez complexe. Et du coup, lui veut qu'on utilise énormément Powers pour ça, pour commencer à poser des dilemmes dans le jeu. Je vais retrouver des NPC, donc des NPC, c'est des personnages du jeu avec qui je vais interagir moi en tant que joueur, qui vont bah, potentiellement tous les trois me dire quelque chose de contradictoire. Et moi, en tant qu'enfant et en tant que joueur, je vais commencer à devoir me construire ma vérité. Et nous, on veut aussi aller adresser ces sujets-là. C'est-à-dire pas juste être sur des matières académiques dont j'ai parlé plus tôt, mais utiliser la puissance du jeu vidéo pour commencer à les préparer au monde de demain, c'est-à-dire comment je construis quelque chose qui est rationnel. Il n'y a pas forcément d'avis ultime, mais en tout cas, comment je fais quelque chose sans me faire enfumer par les milliards d'informations qui vont me tomber dessus, parce que c'est ce qui va se passer quand j'arriverai dans le monde adolescent puis adulte.
Donc avec toute la notion de développer l'esprit critique pour les
exactement,
enfants.
Exactement, c'est tout à fait l'esprit critique. C'est exactement ça.
Beau projet.
Mmh,
là, c'est capital. Voilà, ça, Emmanuel, mon associé, vous en parlera encore plus, mais c'est vraiment notre but secret. C'est vraiment comment on prépare les enfants au monde de demain. Il y aura le bagage académique, et puis voilà, ça c'est déjà très bien. Mais en vrai, les préparer à se faire un esprit critique et à naviguer dans ce monde qui est quand même de plus en plus complexe, ouais. Ça je pense que c'est la vraie clé.
Ça va être une sacrée arme quand on voit bah voilà, tout ce qui se passe autour de l'IA, les deepfakes, ça va devenir capital, hein, qu'on soit tous capables de discerner le vrai du faux et que
exactement.
On ne se fasse pas berner comme ça.
Exactement.
Je sais que vous avez dernièrement été aux États-Unis pour une petite tournée de présentation de Powers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus aussi?
Bah, je peux vous en dire un petit peu plus. Mais oui, on vient de passer 15 jours. On rentre juste là de San Francisco, Los Angeles, New York. Et Déjà, c'était incroyable. En vrai, ça m'a fait un bien fou. Y a quand même une dynamique là-bas, qu'on le veuille ou non, qui est absolument géniale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tournés vers le passé. Ils entendent parler de Powers. Et donc, on a rencontré socialement des investisseurs et des partenaires. Et ils se projettent tout de suite dans ce que ça peut être. C'est-à-dire, en fait, une alternative à Roblox. Roblox, pour donner une idée, c'est 40 milliards de valorisation. C'est vraiment énorme. Mais les parents détestent Roblox, parce que Roblox, c'est vraiment l'antithèse de ce qu'on vient de décrire. C'est multijoueur, les enfants sont exploités pour construire les choses, ça prône des valeurs qui ne sont pas exactement celles qu'on imagine pour les enfants, etc. Et donc, ils ont tous eu en commun de se dire « Ah ouais, en fait, il y a un truc qui peut devenir aussi gros que Roblox, mais qui peut porter qui peut être promu par les parents, quoi, en gros. Voilà. » Donc ça, c'est super chouette pour nous de le constater, parce que c'est quand même ceux qui valident à la fin. On parle de la Silicon Valley... les business qui marchent ou qui marchent pas, donc voilà. Et donc voilà, après pour la suite, bah on verra comment ça va se passer dans les prochains mois, mais ce qui est important, c'est que on a une énorme ambition, et ça se traduit notamment par ce voyage-là, mais par ce qu'on est en train de faire. On fait pas un petit jeu éducatif, voilà, c'est un monde ouvert, triple A, multijoueur, tiny multijoueur, mais multijoueur, et ça demande énormément de capitaux. Il y a des jeux qui sortent aujourd'hui en AAA dont les budgets sont 200-300 millions de dollars, hein. Donc c'est avec eux qu'on va être en compétition à l'avenir, et donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ces investisseurs, et c'est pour ça qu'on monte cette ambition qu'on y passe du temps. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
Tu as dévoilé ce que tu avais envie de dévoiler, c'est très bien, non, super intéressant.
Et du coup, en termes d'ambition sur Powers, c'est quoi les grands projets à venir pour vous sur la roadmap?
Ouais, là en gros, nous on considère qu'on arrive à la fin de cette phase un peu alpha, donc et elle a pris un peu de temps, hein. C'est-à-dire, construire un jeu, bah, ça se fait pas en claquant des doigts, et ça nous aura pris à peu près 2 ans et demi, on va dire, de développement. Là maintenant, les prochaines phases, elles sont plutôt marketing. Là jusqu'à maintenant, c'était beaucoup de bouche à oreille, donc les 250 000 joueurs qui sont arrivés que en France, c'était essentiellement en bouche à oreille ici. Là, le prochain étape, elle est marketing, donc c'est d'aller planter des drapeaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays anglophones en général, on va dire, et puis dans les pays francophones, y compris la France, évidemment, dans une première étape. Après, bah, on ira forcément plus loin. Ce sera aussi des sujets capitalistiques, mais on a envie d'aller chercher les pays hispanophones, on a envie d'aller chercher l'Asie, mais on sait qu'on y va par séquence, on ne fait pas d'un coup tapis, donc pays anglophone, pays francophone, et puis ensuite le reste du monde. Sachant qu'on a tout prévu pour facilement localiser le contenu, parce qu'on pourrait avoir cette question-là de comment vous faites pour aller adresser à la fois le Canada, la Chine et l'Angola. On a des contenus qui sont faciles à localiser. On a des outils qui nous permettent de facilement localiser les contenus, donc tout ça se gère directement depuis des petits back-office qu'on a développés depuis le départ, donc on n'est pas en train de recoller le jeu à chaque fois. Et puis on a la chance, c'est que le marché aujourd'hui est aidé par des outils. L'émergence de l'IA générative nous permet aussi d'aller plus vite dans un certain nombre de domaines pour localiser, donc on a aussi de la chance d'être porté par des facteurs structurants de marché comme l'IA générative qui nous permet d'aller plus vite là-dessus.
Tu parlais d'une idée pour les professeurs. C'est une idée comme ça que vous allez déployer, ou non? C'est juste...
Je pense qu'on va le faire. C'est juste difficile de le prioriser aujourd'hui parce que ce n'est pas dans le cœur de notre stratégie. Ça vient directement de eux et de leurs demandes. Il faut juste qu'à un moment, au milieu des projets qu'on a à faire, on dise « Bon, bah écoute, on ne fait pas celui-là et on fait celui-là. Mais en fait, concrètement, si à un moment, on a... Je pense qu'il faudrait qu'on ait quelque chose de plus... Voilà, je ne sais pas, un rectorat ou une région qui nous dit « On y va à fond et on fait 200 écoles, là, on aura envie de le faire. » C'est difficile pour nous de le faire pour la vingtaine, trentaine d'écoles aujourd'hui qui utilisent Powers. Mais oui, ce n'est pas très compliqué parce que les données, on les a et on sait les restituer aux parents. Et donc, il suffit juste de changer les interfaces, en fait. Okay. Ce n'est pas si complexe.
Eh bien, merci beaucoup, Yann, pour toutes ces précisions. Merci pour l'échange. Et ben, j'en suis sûr, ça aura donné envie à beaucoup de parents et surtout des enfants de tester Powers. Comment on fait pour installer le logiciel?
Ah ben, on va sur powers.tech, T-E-C-H, powerz.tech. Et après, vous serez guidé. Voilà, vous pouvez le trouver facilement sur PC, sur iOS et sur Android. Sur iOS et sur Android, c'est sur les stores. Donc vous tapez Powers. Et vous n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, comme pour ce podcast d'ailleurs.
C'est très gentil.
On n'hésite pas à venir avec nos enfants mercredi prochain.
Et en vrai, la porte est ouverte. Vous me prévenez juste qu'il y a des bonbons. parce qu'il faut qu'il en reste. Ah bah oui. Mais sinon, la porte est toujours ouverte pour que des enfants viennent voir un peu les coulisses de développement du jeu.
Super.
Super. Merci beaucoup, Yann, pour nous avoir accueillis dans tes bureaux.
Merci à vous d'être venu jusque-là.
Un grand merci.
Ciao.
Ce podcast touche à sa fin. Un grand merci à tous pour votre attention. Et on sait qu'elle est précieuse. À très vite pour un prochain épisode de La Tech à l'envers.